ce caillou blanc exprimant justement la manière dont Jésus nous choisit et nous aime. Chacun d'entre nous, nous sommes un secret pour Dieu et de Dieu. Il y a un secret entre nous et le cœur du Christ qu'on n'a pas le droit de divulguer n'importe comment. C'est un secret. Et on sait bien. Et si on divulgue ce secret sans tenir compte de ce qu'il est, on perd la signification profonde de notre être. J'ai toujours fait la comparaison. Un parfum demande d'être gardé. Et si, justement, on enlève le bouchon, il s'évanouit, il s'en va. Comme le vin, si vous voulez, éventé. Quelque chose qui est éventé. Une âme éventée, elle n'a pas de secret. Une âme qui porte un secret à une profondeur. Alors, ce caillou blanc exprime ce regard d'amour de Dieu sur nous. Y a-t-il un rapport avec le secret du roi dont parle si souvent la mystique? C'est sûr. Le secret du roi, c'est ce que nous sommes dans la sagesse de Dieu. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Aux serviteurs, on ne confie pas les secrets. On les confie à l'ami. Voyez, même si on a des amis multiples, on a tous des amis multiples, des relations diverses, on sait qu'à tel ami, on confie tel secret. On ne le confiera pas à tel autre. C'est très curieux, la communication des secrets, c'est l'aspect, j'allais dire, le plus conscient de l'amour d'amitié. On voit tout de suite, quand on a des relations multiples et des relations amicales, qui peuvent aller assez loin, des relations amicales, on a tous des amis divers, et bien il y a des secrets qu'on ne confie qu'à tel ami, qu'on ne confiera pas à tel autre.
Il y a avec des petits enfants de 3-4 ans, ça arrive très très fréquemment, oui. Ils te disent, je vais te dire un secret, oui. Ils disent quoi?
Exactement. C'est très significatif, ça. Mais c'est l'éveil, je crois, le secret de cette intelligence affective, aimante, par où on découvre à la fois le point de départ de la personne et le terme. Si on est chrétien, le terme de notre personne, c'est notre lien avec Jésus. On est l'ami. Le lien de l'époux et de l'épouse. On est un secret pour le Christ, le caillou blanc. Que seul celui qui l'a reçu le connaît, et que les autres ne connaissent pas. Il y a un secret d'amour. Alors on trouve ça très fort dans la vie humaine, dans toute amitié. Et on voit bien là que les amitiés sont précisées en fonction de la communication des secrets. Et quand Jésus dit, vous êtes mes amis, parce que vous êtes mes amis, vous avez tous les secrets du Père vous sont communiqués, on voit bien. Et il communique à chacun d'une manière spéciale. Le secret du roi. L'initiation au sens de l'ésotérisme n'est-elle pas une contrefaçon diabolique du secret évangélique? Il faut crier sur les toits. Alors, évidemment, là on tombe dans un domaine très, faut pas trop vite généraliser. Et je crois qu'il peut y avoir des contrefaçons diaboliques du secret. Même j'en suis sûr. C'est ce que j'appelais tout à l'heure les faux secrets. Il y a des gens qui sont noués avec les faux secrets. Mais c'est pas si commode de bien faire le discernement des vrais et des faux. Alors je vous disais très rapidement, c'est très important. J'ai dialogué pendant assez longtemps avec des psychanalystes freudiens qui étaient venus me chercher. J'ai eu l'impression d'être prêtre ouvrier pendant un certain temps. Je ne changeais pourtant pas d'habitude. J'avais l'impression d'entrer dans ce domaine très particulier qui est la psychanalyse. C'est tout à fait autre que la direction spirituelle. À la direction spirituelle, le prêtre s'engage dans la psychanalyse. Non. Si ce n'est dans le contrat au point de vue de l'argent. Autrement, on ne s'engage pas. De rester neutre. À tel point, c'est bien que même quand le malade crie, ce qu'il me disait, on avouait certains secrets. Paraît-il que dans l'analyse, paraît-il, parce que je n'ai jamais expérimenté, grâce à Dieu, dans l'analyse psychanalytique, quand vous êtes sur le divan, paraît-il, il y a toujours un moment pathétique où le malade pose la question. Docteur, croyez-vous en l'homme? Alors, dans ce dialogue que j'avais avec eux, on n'était pas seuls, on était quand même une dizaine. Quelques médecins freudiens, et puis on était deux ou trois philosophes. Alors j'ai tout de suite posé la question, alors qu'est-ce que vous répondez? Alors, disons, ça vient un moment pathétique. Croyez-vous en l'homme? Alors évidemment, ils m'ont répondu, on sait. Alors j'ai pas envie. Je dis, c'est affreux, ça. Vous avez le droit de parler ouvertement, ça faisait partie des lois de ce dialogue. C'est comme si vous voyez un type qui est en train de se noyer et que vous lui dites, faites des exercices de natation, mon cher ami. Et vous lui faites de la berge. Allez, faites comme ça, faites comme ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez quelqu'un qui se noie et que vous savez très bien nager? Vous plongez à l'eau pour le rechercher. Alors, ils ont été piqués sur le vif. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous diriez, vous? J'aurais répondu, écoutez, si j'étais en face de quelqu'un qui me posait cette question-là, et qui est dans la position passive de celui qui est étendu sur le divan, je répondrais, je crois en un homme qui a un but dans sa vie. Un homme finalisé. Même si ce but n'est pas exact. Mais il met sa vie dans ce but. Ça, je crois en un homme comme ça. Je ne crois pas à un homme dilettante, qui n'a pas de but, qui n'a pas d'orientation dans sa vie. Puis j'ai essayé d'expliquer. Comme je sais, quand on est en face d'intellectuels, et les psychanalystes sont des intellectuels, il ne faut jamais leur demander s'ils sont d'accord. Jésus, parlant à Nicodème, ne lui a pas dit « Alors, tu es bien d'accord ?» Non, il est parti dans la nuit. Très significatif. Il ne faut jamais demander à un intellectuel s'il est d'accord. Vous demandez ça à un disciple, vous demandez ça à un ami, mais pas à un intellectuel. Comme intellectuel, il vous a posé quelques questions. Vous le laissez partir. J'ai fait, je n'ai rien dit. 6 mois après, un de ceux-là m'a dit, ah, oh, père, c'est extraordinaire ce que vous avez dit. Je dis quoi? Oui, il y a 6 mois. Vous avez fait la comparaison, celui qui était couché sur le divan et qui posait la question à celui qui était en train de se noyer. Il fallait lui jeter une bouée de sauvetage. Ben, j'ai fait ça. À ce moment-là, j'ai fait une entorse à la méthode freudienne. J'ai dit bravo, vous commencez à en sortir. J'ai fait une entorse à la méthode freudienne. Et j'ai vu que c'était extraordinaire. C'était exactement ce que vous avez dit. Comme quelqu'un qui est en train de se noyer et qui se jette sur une bouée de sauvetage. Il a saisi ça. Et ça a été beaucoup plus juste après. Oui, c'est pas étonnant. Si il a un but dans sa vie, il a sa tête en dehors de l'eau. Tandis qu'il n'a pas de but, mais il est en train de se noyer. Le monde se noie parce que le monde n'est plus finalisé. Alors il se noie, il n'est plus où il va. C'est pour ça qu'il n'aime plus. Là, il y a un dilettantisme effrayant, intelligent, très intelligent. Il y a un dilettantisme. La fête, c'est le sommet. Mais le lendemain de la fête, on a la tête de... On a mal à la tête. Pour ne pas dire autre chose. La fête, aujourd'hui, c'est le sommet. Alors, vous voyez, c'est très important de saisir ça, de saisir. Et alors, il m'a développé. Et à partir de là, lui-même avait quitté la méthode freudienne et s'était engagé. Et là, il est haut ensemble. Il dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Quelqu'un qui est malade, qui n'en peut plus, qu'est-ce qu'il a besoin? D'une main, d'un ami avec qui il pourra cheminer. Il a besoin d'un homme, d'un aimé qui est là avec lui, qui l'écoute, mais qui ne veut pas seulement l'écouter, qui lui montre le chemin qu'il faut prendre, qui analyse ses difficultés, et ainsi de suite. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des dialogues, le secret suprême vient de l'Esprit Saint. Le secret, après, vient d'un ami humain, vient d'un frère, d'un parent, tous les secrets. Et puis, il y a le démon. Quand le démon tente Ève, il lui communique un faux secret. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le premier faux secret. Alors qu'il y avait un premier secret qui était ce qui permettait à Adam et Ève de vivre dans l'Éden en amitié avec Dieu. Dieu leur avait donné un secret. Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de vie. C'était un secret qui les unissait. Là, il y avait un secret qui était de Dieu. Et le démon a empoisonné ce secret en mettant un faux secret qui conduit à l'orgueil. Alors, encore une question. Pensez-vous vraiment qu'il y avait davantage d'amour dans le siècle précédent? Ah, alors là, je n'arriverai pas dans des années. Enfants nourris en nourrice. Ça, c'est évident. Absence de communication dans la famille. Autoritarisme du père. Je crois que le siècle précédent préparait celui-ci. Je crois. Il y a toujours un mélange de bien et de mal. Je crois. Alors, vous voyez, c'est très difficile. Quand j'ai dit manque d'amour dans le monde d'aujourd'hui, je vous ai dit la constatation de certains médecins. Ce que je peux constater en tant que philosophe, parce que j'analyse notre siècle en tant que philosophe, ça m'intéresse. Ça, je crois que c'est important. Je crois que mesurer l'intensité de l'amour, c'est très difficile, c'est même impossible, parce que c'est un secret. Ce qu'on peut, c'est essayer de comprendre si la vérité se communique, ou si on est dans une communauté où la vérité est toujours falsifiée. Alors, je constate, c'est un fait, que depuis 150 ans, il y il y a 8 formes d'athéisme, d'idéologie athée, qui sont en train de polluer notre culture. Nous sommes bombardés par 8 formes d'idéologie athée qui sont sorties de notre Europe. C'est un fait, ça. Ça, on ne peut pas le nier. Et dans l'histoire de la philosophie, c'est tout à fait nouveau. Ça, je ne peux pas le nier. Huit formes d'idéologie athée. Vous voyez, il y a toujours eu de l'athéisme. Mais cet athéisme était très localisé. Ce qui est nouveau, c'est de voir que ceux qui normalement devraient éclairer, aider, les philosophes étaient considérés en Grèce comme des sages, ceux qui réfléchissent. Ceux qui ont eu du temps pour réfléchir, tout le monde n'a pas ce temps-là. C'était des contemplatifs. C'était ceux qui recherchaient la vérité. Ceci est resté pratiquement jusqu'au XVIIe siècle. Et à partir de là, progressivement, on voit une sorte de corruption qui se fait à l'intérieur de la philosophie. Pour aboutir à ce phénomène tout à fait nouveau des idéologies athées. Mais bien ce que je veux dire par idéologie athée, hein. Positivisme, marxisme, Nietzsche, Sartre, évolutionnisme absolu, néo-hegelianisme, toutes ces formes-là. Ça m'intéresse beaucoup au point de vue philosophique. Ça, je peux les analyser. Écrit. Et je vois que ça s'est diffusé. Alors, on peut dire que peut-être actuellement la diffusion de ces idéologies athées est moins forte qu'avant. C'est possible. C'est ce que le pape actuel parle de laïcisation. Le fruit de ces idéologies athées, c'est la laïcisation. C'est-à-dire, on considère l'homme uniquement en lui-même, et je dirais même pas uniquement en lui-même, mais l'homme relatif à l'homme. Et toute dimension de recherche de l'absolu est rejetée. C'est un fait. On peut nier ça. Et ça, c'est le fruit de ces idéologies athées. Toutes ces idéologies athées ont rayé le problème de l'amour. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui fait profession d'athéisme, on en rencontre tout le temps aujourd'hui, dans les meilleures familles. Il y a un cousin, un oncle, moi-même un frère, qui fait profession d'athéisme, d'idéologie athée. Je vois une famille que je connais bien à Paris, que j'ai mariée, je crois que c'est le premier mariage que j'ai béni. Des gens merveilleusement chrétiens, pas du tout fermés, vous voyez. Surtout la mère, très intelligente. Le père avait été philosophe. Professeur de philosophie et de manière intelligente. Et elle avait beaucoup, beaucoup reçu de son père. Qu'est-ce qui est arrivé? À partir de 17 ans, tous les enfants, tous, ont tourné le dos. Union libre, plus aucun intérêt à l'aspect religieux. Tous. Et je vois encore cette mère me disant, c'est affolant. Notre désir était de... Je dis, ne vous inquiétez pas, vous avez élevé chrétiennement jusqu'à 14-15 ans. Puis après, c'est énorme ce que vous avez donné. Ils reviendront. J'en suis sûr. Ils reviendront. Un phénomène tout à fait particulier. Il y a une espèce de cyclone dont on voit la queue aujourd'hui. C'est moins virulent sous certains aspects, sous d'autres aspects. C'est plus virulent. Il y a un cyclone où, de fait, des quantités ont été emportées. Et c'est ça que j'appelle les idéologies athées, qui forment une culture et qui emportent. Qui fait qu'on rejette tout. On n'a pas du tout compris ce que c'était que la foi, on n'a pas du tout compris ce que c'était qu'une intelligence droite qui cherchait la vérité. Alors, on s'est laissé prendre. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vais continuer si vous voulez.
Je ne peux même pas dire qu'à l'heure actuelle, ils en reviennent beaucoup à cette affectivité, on en parle beaucoup.
Oui.
Je pense que rien n'est
espéré. Ah, mais
je ne
dis pas du tout.
Pour les jeunes, il y a une espèce d'élan.
Mais tout à fait.
On revient beaucoup à cette affectivité.
Je parle.
C'est un mot sentimental, au contraire. Je crois que
je parle
il y a quelque chose
de
bon
qui est fait. Culture, faites attention.
La culture.
Hein? Je parlais de la culture. Oui. Vous voyez? Et j'ai dit que la culture était bombardée de ces idéologies athées. Vous voyez, c'est un fait. Le Saint-Esprit est toujours là. Oui, il y a des conversions étonnantes, merveilleuses, partout. C'est étonnante. Parce qu'on voit ce pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle le montre bien. C'est un signe. Mais ce que je parle de la culture. Quand je regarde les livres qu'on donne aujourd'hui pour l'instruction officielle, ce qu'un enfant peut entendre à la télévision, c'est ça que je parle, vous voyez. Et c'est ça seul que je peux détecter. Parce que justement, j'avais dit, l'amour, je ne peux pas. Oui, je ne peux pas le détecter. Il y a des choses merveilleuses dans la conversion d'aujourd'hui, étonnantes, qui me bouleversent. Beaucoup plus qu'avant. Et qui apprend des formes très diverses. Mais c'est étonnant, c'est merveilleux. Mais ce que je montre, c'est que les traditions familiales sont battues en brèche. Oui. Que ces traditions familiales n'aient plus été suffisamment vivantes et soient sclérosées, c'est vrai. Mais pas toujours. Pas toujours, c'est pour ça que je prenais exprès cet exemple de ces jeunes où, de fait, le milieu familial qui était vivant, qui était intelligent, je vous affirme, n'était pas bête du tout. Cependant, arrive un certain âge, à cause de ce poids d'une culture. Oui. Et c'est ça qu'on doit constater. On ne peut constater que cela. Oui, je peux constater des témoignages individuels qui sont étonnants, qui sont multiples, mais ce n'est pas encore arrivé au niveau politique. Quand vous regardez les élections, quand vous essayez de comprendre certaines, qu'est-ce qu'il y a comme réaction par rapport à un enseignement qui se veut de plus en plus laïque. Quand vous constatez cette laïcisation, oui, ça perd tout aussi, ça. Et ça perd aussi. Remarque, c'est énorme et merveilleuse espérance. Pour moi, ce n'est pas du tout le désespoir, je suis loin d'être désespéré, croyez-le bien, mais je constate, parce que je crois qu'on doit être lucide là-dessus. On doit comprendre qu'il y a eu et qu'il y a, du côté de l'intelligence, une attaque qui a été très forte dans ces idéologies athées. Vous voyez ? Et qui exige de nous une attitude de réflexion, vous voyez, une réflexion profonde pour détecter ça. Parce que les convertis, j'en vois tout le temps. Dernière retraite encore que j'ai faite, il y avait la moitié qui étaient des convertis. Et s'est converti cherche une nourriture forte. Il la trouve peu. Oui. Ils sentent bien qu'ils ont été convertis. C'est comme disait l'un d'eux. C'est déjà ancien. C'était il y a vers les années 60. Quand j'ai enseigné chez les Dominicains. Fribourg et chez les Dominicains. J'ai eu un cas très extraordinaire, mais qui annonçait ce qu'on voit maintenant. Un garçon de 26 ans qui était entré chez les Dominicains. Et comme j'enseignais la première année de philosophie, on me l'avait confié. J'enseignais aussi dans les autres années, mais j'aimais d'avoir la première année. Je me suis trouvé devant, je sais pas, je crois qu'ils étaient 12, 13. Et j'ai eu l'impression qu'au milieu de Poussin, il y avait un canard. Tiens. Et j'aimais découvrir chaque étudiant intellectuellement. J'aurais pu demander un... Et pas beaucoup, mais ça donne des a priori. Pendant 15 jours, il écoutait. Je voyais bien qu'il écoutait très bien. Mais j'avais l'impression que comme l'eau sur la peau d'un canard, ça coule. Au bout de 15 jours, elle est venue me trouver. Elle dit, père, vous savez sans doute qui je suis. Je dis non. Oui, je vous ai remarqué, c'est sûr. À beaucoup, mais je ne sais pas qui vous êtes. Alors il m'a dit cette chose. M'a beaucoup frappé. Mon grand-père était marxiste. Mon père était marxiste. J'étais moi-même marxiste. Troisième génération. Du moins, deuxième génération. J'ai fait... Mes parents sont pauvres. Prolétaires. Et comme j'étais intelligent, ils le savaient, ce qui était juste. J'étais intelligent, j'étais pas bête du tout. On m'a donné une bourse pour faire une licence à Paris. Une licence de géographie humaine. Un soir, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Je ne peux absolument pas vous l'expliquer. Je suis entré dans ma piole, au sixième étage, petite chambre de bonne. Puis, je me suis mis à genoux. Première fois dans ma vie. C'était pas baptisé. J'ai prié. Je savais pas ce que c'était. Ça a duré une heure. Quand je me suis levé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Oh, c'est le Christ. C'est le Christ. Comment parler de ça? À qui m'a le secret? Comment parler de ça à qui? Là. Je dis, oui, il faut bien des curés, mais je ne peux pas les adresser, jamais adresser la parole à un curé. Alors, je me suis renseigné pour savoir s'il n'y avait pas des monastères. Il semblait que ce serait plus facile de parler. Et on a indiqué le monastère des Carmes à Avon. J'étais là. J'ai raconté ce qui s'était passé. Et le religieux qui m'a écouté a dit, je vois très bien, oui. Puis il a essayé de saisir un peu. On a parlé. Il m'a dit, si vous voulez, je peux vous enseigner. De fil en aiguille, hein, il a demandé le baptême. Et comme son professeur marxiste, c'était Lefebvre, qui 10 ans après la guerre avait écrit un petit livre sur l'évolution du marxisme en France et à cause de ça avait été rayé du parti communiste puisqu'on n'a pas le droit de faire la critique de l'évolution du marxisme, ce serait anti-marxiste. Ce professeur, avant d'être rayé, c'est pour montrer l'intelligence, avait dit dans un couple, il n'y a que deux métaphysiques possibles, celle de Marx et celle de Thomas d'Aquin. C'est assez joli, tu vois. Et cet étudiant avait gardé ça dans son intelligence. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que c'est tellement vrai. L'influence de l'Esprit Saint sur l'amour, sur le cœur. Il convertit le cœur. Ça fait que ça peut donner la grâce. La grâce convertit le cœur. C'est par l'amour qu'on est plus proche de Dieu. Mais cet amour réclame la conversion. Sentait très bien rester marxiste, c'était empêcher l'amour de se développer pleinement. Et qu'il fallait qu'il convertisse son intelligence. Alors il m'a dit, je savais. Alors il m'a dit, un ordre. Il connaissait Thomas d'Aquin. C'était les Dominicains. Alors j'ai frappé à la porte des Dominicains pour entrer chez eux. Il était devenu Dominicain. C'était comme ça que j'ai eu comme étudiant. Alors j'ai compris le canard. Prenez bien. C'était le marxiste. Il avait une intelligence marxisée. À partir de ce moment-là, vous comprenez très bien, l'objectif de mes cours, c'était de viser toujours le canard, et de bien le viser, et d'essayer d'enlever cette carcasse terrible du marxisme. Comme il était de bonne volonté, puisque l'Esprit Saint avait converti son cœur, on pouvait dialoguer merveilleusement. J'ai dit, venez tant que vous voulez. Chaque fois que vous avez des objections, venez, on discutera ensemble. Lui me citait Lénine tout le temps. Il avait lu Lénine. Il avait lu Lénine, disciple d'Aristote. Et comme il savait que je connaissais Aristote, il y avait une possibilité entre nous de nous entendre. Il y avait un lieu commun. Il montrait comment Lénine avait marxisé Aristote. Et qu'Aristote, ce n'était pas tout à fait ça. C'était palpitant, vous comprenez. Parce que être en face de quelqu'un qui avait été formé par Marx, et qui en même temps avait son cœur converti par l'Esprit Saint. Je crois que c'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. L'Esprit Saint est converti des cœurs de jeunes de façon étonnante. Et que ces jeunes comprennent que leur intelligence a été plus ou moins fourvoyée. Ou par le positivisme, ou par le marxisme, ou par le freudisme, ou par Nietzsche, ou par Hegel. Et qu'ils éprouvent le besoin de convertir leur intelligence. Oui. Et qu'il faut convertir leur intelligence, c'est-à-dire leur permettre que leur intelligence se décrasse. Parce que les idéologies athées, c'est une crasse terrible. Ça fait penser à la marée noire. Vous avez ça. C'est la marée noire. L'eau à la place de purifier apporte cette espèce de choses terribles qui étaient la marée noire. En Bretagne, on le sait. Et il faut décrasser ces intelligences. Et je vous affirme, c'est pas commode. Parce que ces idéologies décollent à notre intelligence. À notre intelligence qui s'est laissée prendre, qui s'est laissée séduire. Il faut redonner à l'intelligence cette soif de vérité, ce désir de vérité. Pour retrouver comment l'intelligence a, au-delà de tous les systèmes philosophiques, de toutes les idéologies, l'intelligence a soif de vérité. Et que ce qui est merveilleux dans la foi, c'est que la foi en rien ne contredit cette soif de vérité. Et qu'une intelligence qui se découvre dans toute sa, j'allais dire, dans toute sa force, dans tout son appétit naturel, peut être au service de l'amour. Il n'y a pas d'opposition, loin de là, entre l'intelligence qui cherche la vérité et la soif d'amour que nous avons en nous. Ça, je crois que c'est très important. Les jeunes qui se convertissent, s'ils n'ont pas nourriture qui permette à leur intelligence de se décrasser vis-à-vis de toutes ces idéologies qu'ils n'ont peut-être pas étudiées et dont ils ont respiré l'air, par le cinéma, par les lectures, par tout, télévision, il faut que ça se décrasse pour que l'amour puisse s'épanouir pleinement. Mais c'est là où on voit la chose la plus grande de l'intelligence, c'est d'être au service de l'épanouissement de l'amour. Il n'y a rien de plus grand pour que l'amour puisse aller jusqu'au bout. Je reviens là, je continue si vous voulez. Je prends ce point de vue du choix, du secret. On peut réfléchir longuement là-dessus. Si j'analyse le choix, je vois que tout choix qui implique intelligence et amour fait qu'on doit connaître celui qu'on aime et qu'on doit l'aimer pour lui-même. Alors ça, c'est très délicat. Et c'est capital. Le choix porte sur l'ami. Et je choisis cet ami pour lui. C'est lui qui détermine mon amour. Et non pas la connaissance que j'ai de lui qui détermine mon amour. Ça peut vous sembler un peu subtil comme un lien, comme analyse, mais c'est capital. Je vous affirme. Je crois que 70 des séparations, des divorces viennent de là, qu'on confond cela. Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour lui. Et donc c'est lui qui détermine mon amour. Et c'est là où je comprends comment l'amour et la volonté d'aimer ne fait qu'un. Aimer volontairement quelqu'un, c'est justement mettre tout cet appétit spirituel, d'éveiller tout cet appétit spirituel, et de le mettre au service de l'amour. Et qu'il y a là quelque chose de radical. Et que c'est vraiment l'ami qui m'attire. Et que c'est vraiment l'ami que j'aime, pour lui-même. Pour l'aimer, il faut le connaître. Mais la connaissance, j'allais presque dire, s'efface devant l'ami. Je le connais, je connais ses qualités, je connais ses défauts, je connais ce qu'il est. Et lorsque je l'aime, c'est lui. La connaissance est comme dépassée. L'amour est extatique. La connaissance n'est pas extatique. Mais l'amour est extatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour a ce privilège, cette force de me permettre de me dépasser. Quand je connais connaît toujours quelqu'un en l'assimilant. C'est-à-dire, je le porte en moi. Je le connais en l'analysant. Je le connais en essayant de vivre, de me représenter ce qu'il est et de le connaître. La connaissance a un mode d'assimilation. L'amour a un mode extatique. Ce que saint Augustin dit, l'amour, c'est un poids. L'amour me porte vers celui que j'aime. Quand j'aime quelqu'un, je ne vis plus en moi, mais je vis dans celui que j'aime. Je suis toujours près de lui. Et j'essaie d'être le plus proche de lui. Quand j'aime quelqu'un, je veux vivre avec lui, qu'il y ait une vie commune et la plus forte possible. Parce que quand j'aime, je veux être le plus proche possible de celui que j'aime. Quand je connais, j'assimile. Je ramène l'autre à moi. Vous voyez, il y a deux mouvements divers. La connaissance fait qu'on ramène à nous. Porte celui qu'on connaît en nous. Quand j'aime, je me laisse porter par celui que j'aime. Je vais vers lui. C'est le mouvement extatique. C'est très important de saisir ça. Parce que quand on aime l'ami, on l'aime pour lui. Par le fait même, si un jour, il est fatigué. J'ai l'impression qu'il m'aime moins. On peut avoir cette impression-là. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu parais absent. Tu parais fatigué. Tu parais replié sur toi. Qu'est-ce que tu as? On se coupe un peu, vous voyez? Pour qu'il se réveille. Et puis si l'autre ne répond pas, il n'a pas l'air de se réveiller. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et à ce moment-là, il y a une tentation terrible de l'aimer moins. Parce que notre amour est mesuré à la connaissance qu'on a de lui. Un amour qui est mesuré à la connaissance qu'on a de l'ami, et non pas par l'ami lui-même, fait qu'à ce moment-là, on est toujours en danger, à un moment donné, de l'aimer moins. Alors si ça continue, petit à petit, on aime moins. Et alors l'autre, qui est fatigué, n'est pas réveillé dans son amour. Et il risque de se replier. Cherchez bien comment on passe d'un amour éveillé un amour qui progressivement s'éteint. Très curieux, ça. Et ça provient, j'en suis quasi sûr, au plan philosophique, de ce fait qu'on a mesuré son amour sur la manière dont l'autre répondait à mon amour, et non pas sur lui. En tant qu'il est mon bien, en tant que c'est lui qui m'a attiré. Mais d'un côté, mon amour reste immanent à ma connaissance, et de l'autre côté, mon amour dépasse la connaissance que j'ai de l'autre. C'est assez subtil, hein, mais on peut très bien, si on est attentif, arriver à très bien comprendre ça. Alors, ce qui fait saisir que lorsque je mesure mon amour à la connaissance que j'ai de l'autre, ou à l'amour de l'autre pour moi, mon amour pour lui est en péril. Tandis qu'au contraire, si la mesure de l'amour, c'est l'amour, ce que demande saint Bernard, même si l'autre ne répond pas, je continue de l'aimer pour lui. Et donc je dépasse ce ce moment pénible, ce moment difficile, ce mauvais tournant, où l'amour n'a plus la même ferveur. Et c'est cet amour-là que j'en cherche. Tu vois, c'est lui qui est mon bien. Oui, il y a là, dans ce point de vue de l'amour, je crois quelque chose de très important. Parce que ça me permet, à travers le choix, de saisir ce premier amour. C'est ça que je voudrais regarder encore un instant avec vous. Qu'est-ce que c'est que l'amour? J'en arrive là au point de vue philosophique. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Aimer vraiment. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut aimer selon des modalités différentes. L'amour instinctif. C'est vrai, j'ai un instinct qui me porte vers l'autre. Comme des animaux qui se poursuivent. Un amour instinctif. Un amour passionnel. Un amour romantique. Un amour spirituel. Toutes ces modalités, je peux les reconnaître en moi. Elles soutiennent, c'est moi qui aime. Et seul l'amour spirituel évidemment, un amour qui implique une réciprocité pour aller plus loin. Seul cet amour spirituel peut être un amour volontaire. Je vois la diversité de ces amours et je me pose la question philosophique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces amours? La diversité et l'unité. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Présent dans ces diverses modalités. Et quand je pose le problème de cette manière, je peux dire que l'amour, c'est un élan qui me porte vers celui que je considère comme mon bien. Le bien a une force d'attraction extraordinaire. Le beau a une force de séduction qui est tout à fait différente. Alors, il peut y avoir des liens entre les deux. Je peux me servir du beau, donc de la séduction du beau, pour aller vers l'attraction du bien. Le bien attire et le beau séduit. Je crois qu'on peut dire ça. Saint Thomas, une petite phrase que j'aime beaucoup, surtout de l'entendre de Saint Thomas. La séduction que peut exercer une jeune fille sur un jeune homme doit conduire à un amour spirituel. C'est beau de la part d'un théologien de dire ça, théologien du Moyen Âge. La séduction de quelqu'un éveille. C'est vrai. Ça éveille. Là, c'est le coup de coude de mon sculpteur. Oh, regardez ces yeux grecs, cette déesse. Ça met en éveil, ça. Ça, c'est la séduction du beau. Le beau séduit. Le bien attire. Et le bien, c'est une personne. La séduction, c'est telle ou telle qualité d'une personne. Les yeux, le regard, le sourire. Ça, c'est la séduction. On est séduit par telle chose. Une harmonie extraordinaire de couleurs. Un coucher de soleil, des harmonies étonnantes. Ça séduit. Tandis que l'attraction du bien, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur et qui touche ce qu'il y a de plus profond en moi. C'est ma volonté êtes bien sensible. Et le bien attire. Il y a des personnes qui sont bonnes, qui attirent. Il y a des personnes qui séduisent. C'est très bien. Et il y a des personnes qui font les deux. C'est parfait, ça. Elles séduisent, elles attirent. Il y a la phase de séduction, et puis après, il y a la phase de l'attraction. Mais souvent, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Très curieux. Et je crois que c'est très important, au plan philosophique, de comprendre cette force d'attraction du bien. Le bien, c'est ce qui m'attire. C'est très difficile à analyser, parce que un premier amour, le duvet du cœur, j'ai un cœur qui devient chaud. Je ne dis pas qu'il s'échauffe, mais qui devient chaud. Vous voyez, ce duvet du cœur. Pourquoi certaines personnes peuvent attirer et d'autres pas du tout? Très mystérieux. Alors, il y a des philosophes qui ont expliqué ça par des atomes crochus. Moi, ça n'explique rien du tout, ça. Des atomes crochus. Très mystérieux, ça. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est la naissance de l'amour. C'est ça qui intéressait l'homme, Platon. Platon a essayé de comprendre ce que c'est Eros. L'amour, dans toute sa force violente. Eros, dans le banquet. Et Platon invente le mythe de la naissance de l'amour. C'est très beau. Ça fait bien. Il invente à sa manière. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant d'analyser ce mythe de Platon. C'est l'anniversaire d'Aphrodite. Aphrodite. C'est l'amour élégant. C'est l'amour séducteur. Aphrodite. C'est l'amour qui... Oui, je dirais celui qui s'amuse. Aphrodite, c'est ça. L'anniversaire d'Aphrodite. C'est à partir de là qu'il pense à la naissance de l'amour. Et la naissance de l'amour, c'est le lien entre la surabondance et la pauvreté. C'est étonnant, ça. L'amour naît du lien de la surabondance et de la pauvreté. Pour être attiré par le bien. Il faut que le bien ait une certaine surabondance. Quelqu'un qui est bon, la bonté implique une surabondance. Et celui qui est attiré est un pauvre. Celui qui est satisfait de lui-même ne connaîtra jamais l'amour. D'être pauvre. Et Socrate, c'est ce pauvre qui se laisse attirer par le bien. Je trouve ça très beau, moi. Parce que ça ne dit pas ce que c'est que l'amour. Mais ça montre les conditions de la naissance de l'amour. Pour qu'il y ait amour, il faut un pauvre et quelqu'un qui la surabondance. Autrement, l'amour n'apparaîtra jamais. L'amour, c'est l'éclosion en nous, au plus intime de notre cœur, au plus intime de notre volonté, de notre appétit spirituel. C'est l'éclosion d'un don. On se donne grâce à cette attraction. Il n'y a pas d'amour sans don. L'extase. L'extase est un don. On est attiré. On est pris. Et on est conscient de ça. On se laisse prendre. Vous voyez, le premier amour, hein, le premier amour, l'amour dans ce qu'il a de tout à fait fondamental. Ce premier amour, il n'est pas libre. certaines personnes m'attirent, et d'autres pas du tout. C'est vrai, j'ai des jeunes, c'est extrêmement net. J'ai des gens déjà plus assis dans la vie, peut-être qu'à moins d'éclosion d'amour. Quoique l'amour peut-être, je vous l'ai dit tout à l'heure, naître indéfiniment. Notre cœur spirituel demeure toujours jeune. Il a quelque chose d'éternel. Donc on n'a pas d'âge dans l'amour. On a l'âge de son amour. On peut arriver à aimer, même si on est déjà âgé, parce que notre amour spirituel n'a pas d'âge. Notre amour passionnel a un âge, mais pas notre amour spirituel. C'est ça qui est merveilleux. Une fois qu'on a découvert ça, peu importe la vieillesse, on la dépasse, on aime. Alors évidemment, il faut aimer autant que possible quelqu'un qui lui-même reste éternel. Si on aime le Christ, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. C'est extraordinaire. Et on retrouve les mêmes lois d'attraction. On est attiré, on est saisi, on est pris. Ce premier amour s'impose à nous. Il n'est pas libre. On est libre de l'accepter ou de le refuser. Alors là, oui. On est libre de dire non, c'est impossible. De dire oui, c'est quelque chose de très grand. Mais la liberté vient ensuite d'accepter l'emprise de ce bien ou de le refuser, de l'écarter. Quelque chose de dangereux. Où je sens bien, j'ai séduit. Vous êtes très lucide là-dessus. C'est là où on voit la maturité de quelqu'un. Et c'est là où on voit si quelqu'un se laisse encore prendre par ses passions comme s'il avait 30 ans. Et c'est quelquefois risible de voir un homme de 50 ans qui est exactement comme un gamin de 14 ans. Il est pris. Ah, j'aime. Attention quand même, il n'avait plus 14 ans. Vous êtes engagé. Ah, c'est plus fort que moi. Vous êtes fidèle à la vie, j'ai entendu ça. Mais l'amour spirituel, au point de départ, il a une ferveur étonnante. Il est lié à la passion. Il faut distinguer. Il faut avoir suffisamment de lucidité pour savoir si on peut l'accepter ou pas l'accepter. Si on l'accepte, on s'engage. Et ça va jusqu'au choix. Et le choix est libre. On choisit cette personne. Parce qu'elle nous aime et qu'on l'aime. Parce qu'elle a éveillé en nous quelque chose de grand et qu'elle est capable de l'éveiller encore. Vous voyez que dans l'amour, l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus fort et de plus pénétrant, n'est pas évacuée. C'est faux de dire que l'amour est aveugle. La passion est aveugle, mais pas l'amour. La passion, c'est vrai, c'est évident. Mais pas l'amour. L'imagination est aveugle. Et quand l'imagination se lie à la passion, on est un cheval au galop. On fonce. Puis c'est pas très grand. Ça ne dure qu'un instant. Ça peut durer quelques années, mais ça ne dure pas indéfiniment. Parce que la sensibilité s'use. L'amour spirituel implique l'intelligence. Bannit la raison, oui. Mais l'amour spirituel implique l'intelligence pour arriver jusqu'à un choix limpide, conscient, qui est le meilleur de nous-mêmes et qui est le grand secret de notre vie. Notre lien avec l'ami, notre lien, si on est chrétien, avec le Christ. Notre vie chrétienne ne devient une vie que lorsqu'il y a ce choix, que lorsqu'il y a cette rencontre. arrêté.